Alors, citons quelques termes qui, je pense, vous irritent un peu l'oreille. Alors, laïcité, humanisme, émotion, développement personnel, homme augmenté. Alors, je pense que l'homme moderne, dans sa petitesse, on va le développer, mais vous insupporte. Ce que j'appelle, moi, le tout à l'ego. Je vous cite d'ailleurs, « Certains s'effarouchent lorsque je fustige l'homme ordinaire, vil et vulgaire, pensant que je méprise tous les humains. Or, l'homme ordinaire naturel ne doit pas être confondu avec la personne, encore moins avec l'homme intérieur, l'homme spirituel. Il désigne l'individu charnel, conditionné, rivé à ses passions, avide et insensible, et destiné à la mort. »
Mais vous avez tout dit. Non, je n'ai rien contre ni notre époque, ni le monde moderne. Comme on le disait précédemment, ce n'est pas une nostalgie du temps passé, mais de tout temps, il y a des êtres, des individus épris d'absolu, ou qui ont le sentiment de leur grandeur possible, donc prendre tous les moyens de l'accomplir, et puis ceux qui se contentent d'eux, qui préfèrent rester dans leur terrier, qui ont soif de sécurité, de tranquillité ou de conformisme. Donc il y a toujours eu des grandes âmes, on dirait, et puis des individus qui ne sont pas éveillés à cette autre dimension. Et la dimension spirituelle est exigeante, elle exige de vous. Et là, on est dans la démarche inverse. Qu'est-ce qui me rapporte? Qu'est-ce qui va me sécuriser? Qu'est-ce qui va me rendre beau, bien, riche, etc. On est totalement actuellement, et c'est le sens pour moi du développement personnel et du bien-être, dans une démarche totalement narcissique, égocentrée. Alors que la démarche spirituelle élémentaire commence à partir du moment où on renonce non pas au monde, à ses plaisirs, au vin, à tout ce qu'on veut, mais on renonce à soi, c'est-à-dire au moi charnel mortel, du moment où on s'oublie. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se croient spirituels, et en fait, ils se regardent encore en train de ou méditer ou pratiquer le yoga, où ils se croient très réalisés, comme ils disent, et en fait, c'est l'ego qui est encore gonflé. Alors, tout ce qui est de l'ordre actuel, du bien-être, du développement personnel, la thérapie aussi, c'est vraiment pour consolider ou renforcer ce qu'il y a de plus mortel en nous. C'est ça qui m'effraie, qui m'afflige, je dirais.
D'impermanent.
Oui, le moi ne survivra pas. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'il y a de plus éphémère et en plus de plus banal. C'est ce qu'on partage, ce que les êtres humains partagent avec le plus possible. Le moi, c'est le plus banal. Donc, qu'est-ce qui fait l'originalité d'un être? C'est justement son âme, avec toutes ses couleurs, ses richesses et ses possibilités. Cette dimension-là, c'est cela, la véritable singularité de l'être humain. Alors, quant à la laïcité, c'est une très bonne chose au sens premier du terme, hein, la séparation de l'Église et de l'État, ou des Églises et de l'État pour la France. Mais on le sait bien, et surtout en France, je le vois, parce que moi, les amis de Suisse, les amis de Belgique sont affligés aussi de dire, mais pourquoi tombez-vous si bas? Puisque ce qu'on appelle le laïcisme maintenant, qui est la nouvelle religion de notre temps, n'est plus une façon d'accepter la conscience de chacun et la liberté de penser, la liberté de pratiquer, c'est maintenant l'expression d'un sentiment anti-religieux et voire anti-divin. Ce qui me fait horreur dans ce qu'on appelait le monde moderne ou post-moderne, c'est justement, c'est un crime contre l'être humain, à mon sens, ça on n'en parle pas, c'est un génocide à grande envergure, c'est cette volonté d'éradiquer, d'étouffer en l'être humain le désir du divin. Je demeure persuadée qu'il y a en tout être, indépendamment de sa culture, de la société dans laquelle il vit, il y a en tout être humain ce désir d'éternité, ce désir d'absolu, qui est plus ou moins éveillé, plus ou moins conscient, mais il y a en chaque être humain, d'où notre besoin, un amour qui dure toujours. Alors maintenant, c'est l'idéologie du durable. Bon. Et tous les despotismes, donc les marxistes, communistes, etc., ont essayé, Solzhenitsyn l'a dit bien avant moi, ont essayé d'écraser, d'étouffer cette étincelle et ce désir d'au-delà d'éternité. Quand on parle d'humanisme, ça c'est intéressant. Moi je me sens humaniste au sens de l'humanisme de la Renaissance. Si on revient aux humanités, c'est-à-dire on revient aux sources, donc on étudie les textes grecs, latins, etc., hébreux et tout. Donc moi je suis entièrement d'accord, il s'agit toujours de revenir aux sources et parler à la source. Bon, et de dire que l'homme est un être, un grand miracle, hein, comme disait Pic de la Mirandole, grec, c'est-à-dire qu'il peut être infiniment plus grand, plus noble, plus beau, plus généreux, plus juste que ce qu'il est lorsqu'il est né. Voilà, c'est toute notre l'ascension, hein, à faire la progression, le perfectionnement. Mais de nos jours, quand on parle d'humanisme, eh bien, ça veut dire humanisme athée, c'est-à-dire un humanisme où l'homme, l'être humain, l'individu, a chassé Dieu, qui est mort depuis, croit-on, Nietzsche, et l'homme est à la place de Dieu. L'homme, c'est non seulement le roi de la création, mais il a tous les droits, il a tous les, et pas beaucoup de devoirs, mais il a tous les droits, et Dieu est chassé ou il est renvoyé dans son paradis nuageux, et c'est l'homme qui mérite l'unique attention. Donc c'est l'arrogance extrême, et au nom de cet homme-ci, qui mérite certes aussi des égards, on est bien d'accord, mais cet homme qui se met à la place de Dieu, eh bien, c'est le début de beaucoup d'ennuis et de calamités pour les autres, et pour autrui, et pour la nature, et pour le monde. Voilà, c'est l'humanisme athée. Mais personne n'en parle. Il n'y a personne à révérer, à adorer. Il n'y a que moi, donc d'où toutes les thérapies, les développements personnels, etc. C'est efférent.
Oui, c'est ça, parce que vous êtes pour une lecture plutôt spirituelle du monde, mais contre une spiritualité sans Dieu. Et des termes comme, effectivement, vous venez de le dire, l'esprit de l'athéisme, une spiritualité sans Dieu, une spiritualité laïque. Vraiment, tous ces termes ne vous parlent pas, en fait.
Voilà. Mais c'est pas qu'ils ne me parlent pas. Ce qui me paraît
fou... consistance.
Oui, non, mais ce qui me paraît fou, c'est absolument grotesque et ça ne veut rien dire. C'est une imposture totale. Alors bon, on sait bien d'où ça vient et on sait qui en fait son beurre, on va dire.
Qui ?
Bah, on le sait très bien. Comte-Sponville, bon, malheureusement, moi, je l'ai croisé, mais moi, je lui dirais la même chose en face. Hein, je dis la même chose à ses amis. Donc, c'est absolument scandaleux. C'est que, bon, comme par hasard, il n'y a pas eu de débat entre lui et moi. Mais ce n'est pas pour avoir raison. Mais de dire, arrêtons de se moquer du monde. Parce que moi, très souvent, maintenant, lors d'une conférence, d'une rencontre, ah ben, systématiquement, donc ça remonte à très peu d'années, eh bien, il y a toujours une personne pour dire, et alors la spiritualité sans Dieu ? Alors, moi, je leur réponds ce que je vais vous dire. C'est absolument, c'est une imposture et ça ne veut rien dire. Ou alors, spiritualité, ça veut dire n'importe quoi. Je mange une tarte aux pommes et c'est de la spiritualité. Je me promène sous la pluie, c'est de la spiritualité. Moi, je parle plutôt de vie spirituelle. Qu'est-ce que la vie spirituelle ? Eh bien, vous avez invoqué ou évoqué dès le début de notre rencontre l'esprit, l'esprit saint, l'esprit divin. Eh bien, une vie spirituelle, c'est une vie qui est guidée par l'esprit divin. Donc, ça ne vient pas de moi. Donc, ça veut dire que j'atteste d'un principe supérieur, d'une transcendance divine, inconnaissable, incommensurable. Et c'est une vie, donc, guidée, orientée, nourrie, soutenue, inspirée parfois ou illuminée par l'esprit. Voilà. C'est cela, la vie spirituelle. Donc, que veut dire une spiritualité sans Dieu ? Hein ? Toujours, que veut dire du vin sans alcool ? C'est tout. Donc c'est tout à fait fou, mais c'est grave parce qu'ils jouent, ces personnes-là qui lancent ces formules, ces slogans, parce qu'on est à l'époque des slogans, c'est moins on pense, plus on fonctionne, et je fais exprès de prendre le terme, parce que j'ai horreur du terme de fonctionner, moins l'être humain pense et réfléchit, et plus le robot humain fonctionne avec des slogans, des formules toutes faites, etc. D'où ah ben à un moment, c'est bienvenu dans notre époque de robots, voire Bernanos. La spiritualité sans Dieu, c'est facile et c'est flagorneur. C'est pour ça que ça tombe à point dans notre époque narcissique. C'est-à-dire, moi je ne fais rien, je ne pratique aucune vertu, je vis comme je veux, je ne cherche même pas, je ne me pose pas de questions, mais j'ai quand même une spiritualité. Voilà. Donc, encore une fois, une chose est d'être un bon citoyen, de faire du commerce équitable, d'être généreux, de cotiser ou de donner à des œuvres charitables. Une chose est d'être un bon citoyen, d'être un homme moral, un bon père ou femme aimante, enfin bon, toutes les qualités. Et autre chose est d'être un être spirituel. Donc là, c'est une dimension supérieure. Donc voilà, tout ça pour dire, moi, à chaque fois, j'essaye de, pas déconstruire, mais démonter cette supercherie que représente cette formule.
On va évoquer votre façon de travailler, oui. Sauf le dernier, parce que le dernier différent, c'est un peu des aphorismes, des réflexions sur les quatre dernières années. Hein, voilà. Donc, une thématique, par exemple, vous allez convoquer les mythes, les contes, les récits religieux, les textes sacrés, des philosophes. Bon, alors j'ai trouvé que c'était un peu une amplification à la manière dont Jung pouvait interpréter éventuellement des rêves. voyez. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Et ma question, c'était aussi pour vous faire parler un peu de Jung, mais aussi de Corbin, parce que vous les évoquez tous les deux dans votre livre. Et je pense que vous ne les placez pas au même niveau, j'ai l'impression.
Ah non. Ah non. Déjà, je ne suis pas jungienne. Oui, j'ai lu des livres de Jung. En revanche, en effet, c'est la grande distinction entre la démarche de Jung et la démarche de Corbin. La grande différence, même si Jung parle de soi, alors on pense que c'est le divin, la grande distinction, c'est que pour moi, Jung reste dans le domaine psychique, la psyché, et Corbin, lui, est du domaine, se réfère au domaine de l'esprit. Ils étaient très amis d'ailleurs tous les deux, et malgré ça, heureusement qu'entre amis, on peut avoir des grandes différences, voire des oppositions, des contradictions. La démarche d'un Jung est quand même d'ordre thérapeutique, et la démarche d'un Corbin est d'ordre initiatique. Mais c'est peut-être difficile de comparer et d'opposer ces deux personnes. La question, encore une fois, revient à celle de l'esprit. L'esprit n'est pas réductible au domaine du psychisme. On en revient toujours au ternaire, le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit n'est pas réductible au psychisme. Et je pense que le domaine de Jung, en effet, des Jungiens, c'est par les rêves, par l'étude des symboles, voire les références à l'alchimie, ou par référence au mythe, c'est éclairer l'individu, mais c'est encore l'individu qui est bien au centre. Et encore une fois, ce soi, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, où on parle Dieu, à moins que ça nous écorche la bouche, on dit Dieu, on dit le principe supérieur ou l'être ou l'un ou l'absolu, mais ce soi c'est à la fois un peu oriental, etc. Et alors, petite parenthèse, moi j'avais acheté l'alchimie bien connue, alchimie mystique ou je ne sais quoi, vous voyez, comme je l'ai d'ailleurs toujours dans ma bibliothèque avec une belle icono, mais je peux vous dire que ça fait rire tranquillement et gentiment des véritables alchimistes que j'ai rencontrés, que je connais, qui disent mais il faudrait peut-être un peu descendre de ces nuages ou de ce flou, parce que l'alchimie c'est quelque chose d'extrêmement concret. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une démarche spirituelle, mais c'est extrêmement concret et justement se coltine à la matière, à la réalité, au corps. Donc on n'est pas dans les brumes, etc. J'allais dire, ce qui est simple à distinguer entre le psychisme et le domaine de l'esprit, le psychisme est les troubles toujours en mouvement, fluctuant, brumeux, et les propos qui vont avec sont les mêmes. C'est ça le psychisme. Heureusement, nous avons tous un psychisme qui est mouvant et qui n'est jamais stable. C'est le monde du mélange. Alors que le monde de l'esprit est clair, tranchant au besoin, lumineux, immensément présent et immuable. Voilà la distinction.
On peut peut-être résumer ce que vous dites là en disant que finalement, intégrer son ombre pour vous, c'est pas la même chose que de lutter contre les ténèbres, c'est ça ?
Eh bien voilà, entre autres, en particulier, quelque chose qui m'est très cher, et bien sûr qui ne vient pas de moi, c'était une des grandes discussions, controverses ou impossibles conversations entre Jung et Corbin, et aussi Marie-Madeleine Davy, qui a fait partie aussi de ce cercle et que j'ai connu, qui entreprenait de distinguer le psychisme du spirituel. Alors, moi, les Jungiens que je rencontre, enfin entre autres en Suisse, puisque c'est un dieu en Suisse, bon, et lorsqu'il parle d'intégrer son ombre, l'individuation, etc., une chose est la polarité, donc animus anima, en effet, et d'intégrer son ombre au sens, ses défauts, ses parts non révélées, non éclairées, etc., une chose, mais sur le plan spirituel, si vous rencontrez Satan, vous ne dites pas « Viens Satan, je vais t'intégrer ». Alors bien sûr, je dis ça de façon caricaturale, mais non, que fait Jésus dans le désert et même après ? Arrière Satan. C'est le béaba, la lumière, l'être lumineux ou la dimension lumineuse en chacun, qu'on appelle la part de l'esprit, la part spirituelle, ne peut pactiser de près ou de loin avec le ténébreux, le violent, l'horrible et le mauvais. Voilà la grande différence. Donc sur un certain plan, qui est psychique et quand même horizontal, Jung a raison, il faut intégrer son ombre, peut-être, mais sur le plan spirituel, le propos n'est pas d'intégrer son ombre, ni d'avaler des couleuvres, ni de faire ami-ami avec Satan et les forces ténébreuses. La question, c'est le guerrier lumineux, le guerrier de lumière, qui doit absolument dégager de lui, se faire toute lumière au nom de l'esprit, et dégager de lui, en effet, tout ce qui appartient au domaine pas net, pas clair, inaccompli ou franchement mauvais et ténébreux.
Dans votre livre, alors vous avez eu un rêve un matin, vous dites que le Christ était une énergie. Alors, pour en parler, parce que c'est intéressant, le Christ est une énergie divine, le plus souvent niée ou combattue, mais énergie résurrectionnelle et triomphante, page 90. Alors, ma question, qu'est-ce qu'être chrétienne en 2018, puisque le Christ, et d'ailleurs vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais qui est pour vous Jésus et comment l'incarnez-vous au quotidien ?
Alors vous citez cette phrase, j'ai hésité à l'écrire, mais c'était tellement fort parce que c'est pas moi qui la disais, en effet au réveil, des phrases très fortes qui viennent vraiment ni de l'inconscient, je suis bien persuadée, comme les songes par rapport aux rêves, bon, qui sont des messages de l'au-delà, et je me disais si, il faut quand même l'écrire parce que c'est tellement fort, je me suis réveillée vraiment en 10 ans en affirmant cette phrase-là.
Puis ça vous a été révélé à vous.
Oui, et c'était superbe parce que, en effet, ça dépasse la notion d'individu, d'être humain, parce qu'en effet, le catholicisme, enfin, le christianisme est basé, fondé sur cette incarnation, hein, par rapport à l'islam qui refuse toute incarnation du divin, et on peut le comprendre, et pour les juifs aussi. Donc l'incarnation d'un dieu, comment est-ce possible? Comment est-ce pensable? Non, c'est ni possible, ni... enfin, c'est pas pensable, par la pensée humaine étroite. Et énergie divine, en revanche, je pense qu'il y a une dimension que les orthodoxes comprendront mieux. Parce que eux, autant que je sache, et je les fréquente aussi, eh bien, parlent des énergies divines. Et c'est pas mon énergie qui vient de moi. Je suis pas dans une bonne énergie ou des énergies subtiles ou une énergie de colère, etc. Ça, c'est New Age, c'est encore moi. Par exemple, la différence, on le sait, entre Jésus et le Christ. Jésus, c'est le personnage historique. Alors après, on peut contester son exercice. Mais Jésus historique et le Christ, c'est cette transfiguration, en effet, divine. Donc, c'est l'être qui est Dieu, qui échappe absolument à tout conditionnement, toute époque. Et je pense que c'est cela que voulait dire cette énergie qui ne nous appartient pas, mais qui est le sens ultime de notre existence, certes, et du monde. Alors, moi, je ne suis pas non plus une grande lectrice, ni une grande, admiratrice de Teilhard de Chardin, mais c'est peut-être cela qu'il voulait dire quand il parlait du point oméga. Le Christ n'appartient pas au christianisme. Alors, peut-être certains refuseront cette idée, mais un Christ qui est la dimension supérieure, suprême, de tout, vers qui convergent toutes, en effet, nos démarches philosophiques, spirituelles, le sens des mythes, etc. Voilà, et cette énergie résurrectionnelle, je trouve le terme très beau, et je dis ça parce que c'est pas de moi, parce que ça veut dire qu'on a beau, en effet, mépriser, essayer d'oublier, de piétiner. Il y a toujours cette image du phénix qui est la vie même, mais la vie avec triple majuscule.
Alors donc, pour vous, Jésus-Christ était Dieu, homme ou Dieu, ou prophète, ou plus? Si vous avez répondu à cette question.
Non, parce que c'est une question que je me pose. Si je suis chrétienne, je dois attester, confesser que Jésus est le Fils de Dieu. C'est dans le credo. Mais d'un point de vue, je ne vais pas dire supérieur, mais différent, le Christ, en effet, je reviens à l'énergie divine. C'est au-delà de... même les mystères de l'incarnation, même les dogmes, etc., sont terriblement humains et terrestres. Je veux dire, par rapport à ce mystère immense qu'est la divinité. Donc, pour moi, en effet, le Christ est un principe divin. Ça, c'est évident. Mais de dire il est fils de Dieu, là, ça y est, on est dans le cadre d'une religion qui déclare ses dogmes, ses croyances, etc.
Et par exemple, la version coranique de Jésus, elle vous parle ou pas?
La version coranique, c'est un prophète, oui, mais je ne sais pas, vous répondant ça, enfin, un air qui dubitatif, je ne sais pas si c'est dû à mon éducation chrétienne, mais non, il y a encore une fois Jésus, oui, mais le Christ et bien au-delà. Donc, en tant que personnage historique, personne historique incarnée, en effet, on peut dire que c'est l'être accompli, l'homme avec un H majuscule, mais le Christ, en effet, c'est au-delà, bien au-delà de notre humanité.